C'est maintenant l'heure de la chronique des apatrides anonymes avec Mathieu qui vient juste de me rejoindre dans le studio. Bonjour Mathieu.
Bonjour Amélie.
Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui?
Ben, quelques sujets qui tournent évidemment autour du gouvernement fédéral conservateur et de son ministre de l'immigration. Et même du premier ministre, on va parler un peu des délires de Harper parce qu'il... Je sais pas si c'est parce qu'il est en fin de mandat, il achève, mais il dit vraiment un paquet de niaiseries. C'est assez incroyable. Et on va parler aussi... ben, on va finir avec une analyse un peu plus profonde sur la question des travailleurs immigrants temporaires. Commencer avec la série. J'en ai parlé à ma dernière chronique il y a à peu près un mois et demi. La question des réfugiés syriens qui sont très, très nombreux, qui sont à l'intérieur du pays, mais dans tous les pays limitrophes. On parle de 3 millions de réfugiés dans les pays voisins. Égypte, Turquie, Libye, Jordanie, Liban, Jordanie, pardon. 9 millions à l'intérieur. Et j'avais parlé il y a à peu près un mois et demi que le Canada, sur 1300 réfugiés qu'il devait accueillir en 2014, en avait accueilli seulement une dizaine rendue au mois d'avril, mai. Et là, c'est drôle parce que le haut responsable le responsable du haut commissariat des réfugiés est passé à Ottawa la semaine passée pour faire une nouvelle demande aux pays riches, aux pays occidentaux, d'accueillir 100 000 réfugiés dans les deux prochaines années. Et ben, le ministre fédéral n'a pas répondu s'il allait s'engager à quoi que ce soit. Il l'a reçu poliment. Mais on s'attend à ce que le fédéral devrait accueillir, le gouvernement du Canada, 10 000 réfugiés dans cette demande-là, si on fait la proportionnalité avec les pays qui sont là, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Australie et l'Union européenne. Mais comme la première promesse n'avait pas été remplie, c'est-à-dire celle de cette année, 1300 réfugiés, on doute un peu que la suite va aller bien. Il y a des groupes en immigration qui prétendent que ça va être annoncé bientôt, mais entre l'annonce et la réalité, souvent, j'avais expliqué l'autre fois, c'est des parrainages privés, donc c'est très compliqué. Ça faisait que c'était beaucoup plus long, beaucoup plus cher, et donc le gouvernement prenait beaucoup moins d'engagement et de responsabilité dans cette démarche-là.
Et juste une question qui pourrait se poser, c'est est-ce que le Canada est capable d'accueillir ces 10 000 réfugiés?
Oui, techniquement, oui. Ben, il accueille à peu près 300 000 immigrants par année, toutes catégories confondues, dont à peu près 30 000 réfugiés, 25-30 000, c'est rendu. Des programmes spéciaux, il y en a beaucoup eu dans le passé. Qu'il y a eu, par exemple, les crises à l'époque au Vietnam. Il y a eu des crises aussi en Inde, des crises en Bosnie. On a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés dans des programmes spéciaux. Donc, c'est très faisable. C'est juste d'avoir la volonté et de mettre un peu de sous pour ça. Donc, au niveau logistique, il n'y a pas de problème. Donc, mais on verra la volonté politique de le faire réellement. Et on rappelle que la Syrie, ça risque de durer encore des années parce qu'il n'y a vraiment pas d'issue ni militaire ni politique à l'horizon. Donc, on parle que les pays limitrophes, dont le Liban et la Jordanie, débordent vraiment des problèmes importants suite aux réfugiés. Au Liban, c'est le quart de la population qui est réfugiée syrienne actuellement. Donc, on parle de 1,8 million de personnes. Donc, c'est vraiment énorme. Toujours côté réfugiés, ou en tout cas, demande de les visas pour les Mexicains. On en a parlé souvent à l'émission parce que ça avait été une des mesures les plus critiquées de Jason Kenney à l'époque, d'imposer des visas aux Tchèques, aux Hongrois et aux Mexicains pour officiellement réduire le nombre de personnes qui viennent visiter ici. Mais on parlait évidemment de demandes de réfugiés qui étaient problématiques pour le fédéral. Donc, les gens venaient en visa touriste et demandaient après le statut de réfugié. Et ça avait été des mesures pour contrôler ça de la part du fédéral. Beaucoup critiqué parce qu'on s'entend que c'est un moyen détourné de dire « Venez pas ici parce que vous êtes dans un pays sûr », mais les gens, quand ils viennent ici, c'est parce qu'ils ont des raisons de venir. Et là, avec le temps, c'est de plus en plus possible pour les Mexicains. On annonce des mesures de temps en temps. Il y avait un projet pilote dans les 6 derniers mois qui permettait aux Mexicains qui étaient déjà venus au Canada ou aux États-Unis de faire une demande accélérée. Là, on va l'élargir à l'ensemble des demandeurs de visas mexicains, des visas de touristes. Donc, si les gens sont venus au cours des 10 dernières années aux États-Unis ou au Canada, on ne sait pas pourquoi les États-Unis, que ça vient faire là-dedans, mais enfin, donc leur demande va être accélérée. On parle de 7 jours pour la recevoir, ou moins. Donc, le traitement et la réception, c'est beaucoup moins long pour les Syriens en passant. Et que comme preuve, les gens doivent fournir leur passeport pour montrer qu'ils sont déjà venus. Mais on laisse quand même les visas pour les Mexicains, même si on a un accord économique, que c'est un voisin, que c'est un pays avec qui on fait beaucoup de choses politiques, on leur impose quand même des visas, ce qui est assez grossier dans un contexte de libre-échange et de partenariat. Mais on précise que ça va permettre de renforcer les relations entre les deux pays et de favoriser la croissance économique des deux pays. Bon, ça, c'est le blabla évidemment habituel. Ce serait beaucoup plus simple province, les gens pouvaient venir comme ils voulaient, et il y aurait des gens là-dedans qui demanderaient le statut de réfugié parce qu'il y a des problèmes au Mexique, c'est la réalité, c'est tout. Mais donc, M. Alexander, encore une fois, a fait une super annonce pour un peu détendre les relations avec le Mexique. Stephen Harper, vraiment, deux nouvelles cette semaine. Comme je disais, il est en fin de mandat, j'imagine qu'il se laisse aller complètement, et on voit vraiment encore plus à quel point c'est un personnage réactionnaire et d'un autre temps, on pourrait dire. Il y a quelques mois, quand Harper était allé en Israël, il s'était fait accompagner d'un rabbin d'extrême droite qui s'appelle Daniel Korobkin, qui est anti-palestinien et tout et tout. Et il y a quelques groupes de défense des droits des musulmans, des groupes au Canada qui avaient critiqué la présence de ce rabbin sioniste dans la visite, dans le groupe qui accompagnait Harper en Israël. Et un des groupes s'était fait répondre, le groupe s'appelle le Conseil national des musulmans canadiens, qui est un groupe assez important, s'était fait répondre qu'il était de toute façon qu'il n'avait rien à dire parce qu'il était associé à des groupes terroristes comme le Hamas. Bon, finalement, le groupe a nié ces informations-là en disant on n'a pas de lien avec le Hamas, on n'a pas à se faire traiter de terroriste, et demandé des excuses à Stephen Harper et à son conseiller politique qui s'appelle Jason McDonald, qui avait dit les propos au nom de Harper. Et finalement, ils ont refusé de s'excuser. Fait que là, il y a une poursuite en diffamation contre Harper de la part du groupe, donc le Conseil national des musulmans canadiens. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Ça doit être le Conseil canadien des musulmans. Et donc, poursuite en diffamation, 200 000 $ plus dommages et bon, des excuses qui sont demandées. Le montant est assez symbolique. On s'entend, c'est pas très gros, mais c'est plus pour montrer que, bon, on connaît le parti pris d'Harper pour certains pays, certains gouvernements, certaines positions, entre autres pour Israël. Et là, vraiment, un groupe. On est prêt à traiter des groupes communautaires officiels canadiens enregistrés de terroristes pour défendre une rhétorique par rapport à Israël et de ne pas s'excuser d'avoir une poursuite en diffamation. Donc ça, c'est la première partie qui est assez spectaculaire, je pourrais dire. Et la deuxième, ça s'est passé tout récemment, vendredi soir dernier. Stephen Harper était dans une soirée organisée par l'organisme Tribute to Liberty, Hommage à la Liberté, qui veulent installer un monument permanent à la mémoire des centaines de millions de victimes du communisme. Donc, ça, c'est un chiffre qu'on a déjà entendu, qui est assez contesté. Et donc, Harper est allé appuyer ce groupe-là qui veut faire ce monument-là, donc une activité de financement où il a contribué, j'imagine, généreusement. Et il en a vraiment profité pour se laisser aller contre les méchants communistes et toute l'histoire communiste. Et bon, donc les vieux démons, il a parlé évidemment des démons du communisme. Il a associé Vladimir Poutine à un leader communiste. C'est quand même assez intéressant d'entendre ça. Et aux adeptes du communisme du passé. Et là, je vais lire des extraits parce que ça vaut vraiment la peine. Là. Les gens, les oreilles vont leur sciler, mais pour montrer vraiment les positions du premier ministre du Canada. Donc, pendant le 20e siècle, l'idéologie empoisonnée du communisme et ses pratiques impitoyables ont mené à des effusions de sang dans des pays un peu partout dans le monde, soit presque sur tous les continents. Les résultats ont été catastrophiques. Plus de 100 millions de personnes ont disparu, un chiffre quasiment incompréhensible. Et Harper souligne aussi que les futures générations de Canadiens doivent se rappeler que la paix a été acquise grâce à la lutte et au sacrifice. Je ne sais pas exactement par rapport aux communistes, on parle de quoi. Donc, le diable apparaît sous diverses formes et semble constamment se réinventer. Que ça s'appelle nazisme, marxiste-léninisme, terrorisme, l'objectif est le même, la destruction, la fin de la liberté humaine. Les Canadiens sont bien conscients de cette destruction par tous ces régimes-là. Et donc, nous ressentons cette douleur, ça c'est pas pire, nous ressentons cette douleur avec tant d'intensité parce que près d'un quart de tous les Canadiens ont été retenus captifs des chaînes du communisme où sont les fils et les filles de ceux qui l'ont été. Et pour terminer, évidemment, dans le contexte actuel au niveau de la politique du Canada, le Canada, selon Harper, est devenu un refuge pour les gens tentant de fuir l'oppression. Avec ce qu'on a dit tantôt, disons que c'est relatif. Autant les Mexicains que les Syriens, on pourrait parler de bien d'autres. Donc, au lieu du sombre déterminisme du communiste, ils ont découvert, venant ici, l'opportunité canadienne. Et il a rendu hommage, évidemment, à Brian Mulroney, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui ont combattu le communisme dans les années 70 et 80. Donc, c'est vraiment... ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça, ce genre de discours-là. On pourrait l'entendre d'un groupe d'extrême droite ou un groupe de fanatiques anticommunistes, mais de révisionner comme ça l'histoire et dire que le Canada, c'est la liberté, les pays communistes, entre guillemets, étaient le diable, c'est quand même particulier. Et tout ça dans un contexte où on sait qu'Harper continue de plus en plus à dénoncer certains groupes de la communauté, à isoler certains groupes, à trouver des fantômes et des boucs émissaires. Donc là, c'était les communistes la semaine passée et il veut faire un monument à la mémoire des victimes du communisme à Ottawa. Donc voilà, écoute, je vais terminer, il me reste quelques minutes, Amélie, ouais,
oui,
ça va?
Oui, oui.
Deux choses, on a parlé souvent des programmes aussi du fédéral, je reviens à Chris Alexander, après avoir parlé d'Harper et de ses niaiseries. Donc, on a parlé à l'émission des apatrides de la fin du programme des immigrants investisseurs. qui favorisait les immigrants qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient avoir leur citoyenneté en échange d'investir au moins $1 million ici. Donc, le fédéral, dans son dernier budget, l'a aboli, ainsi que le programme fédéral des entrepreneurs. Et là, il a rencontré des chefs d'entreprise à Toronto la semaine dernière pour parler de nouveaux programmes pilotes d'immigration, d'investisseurs, qui va permettre de réaliser des grands investissements et de stimuler notre croissance économique, évidemment. Et donc, le ministre, avec le ministre Moore, aussi de l'industrie, se promène au Canada actuellement pour rencontrer les grands chefs d'entreprise, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, parce que c'est eux qui décident en bout de ligne, on s'en doutait. Donc, il va être à Halifax, Montréal, Calgary, Vancouver, pour rencontrer les chefs d'entreprise, pour trouver un nouveau programme qui permet à des riches investisseurs de venir au Canada en échange de la citoyenneté ou de la résidence. Donc, ça, c'est dans l'air. On savait qu'il n'avait pas aboli les deux programmes qui existaient déjà pour ne pas les remplacer, parce que c'est vraiment dans l'idéologie conservatrice. Donc, ça, c'est ce qui se fait actuellement. Et j'avais aussi une suggestion de lecture pour les gens, un texte que j'ai trouvé intéressant sur le site du Conseil canadien des réfugiés, qui est quand même un organisme critique intéressant, qui est basé à Montréal. Leur site, c'est ccrweb.ca. Et c'est un texte qui essaie d'analyser plus largement la question des travailleurs temporaires immigrants, vu qu'il y a eu, bon, tout le... Dans les médias, même les gens qui suivent pas beaucoup l'actualité ont entendu parler de ce programme-là qui a été suspendu en restauration suite à des abus supposés de McDonald's, certaines compagnies. Il y avait eu l'histoire des banques, la Banque Royale, je pense, l'année passée, qui avait supposément mis des travailleurs canadiens dehors pour prendre des travailleurs temporaires étrangers. Donc, dans les médias, on en parle, mais c'est pas tout à fait nécessairement mis en contexte. On y va souvent avec les clichés, travailleurs canadiens contre travailleurs immigrants. Les entreprises qui servent de ça pour peut-être mettre des travailleurs dehors. En même temps, les immigrants exploiteraient le système pour rester après au Canada. Enfin, plein de clichés ou d'idées préconçues. Donc, un texte assez intéressant qui parle entre autres, qui analyse le fait que l'immigration au Canada, on en parle souvent, les apatrides à l'émission, ça a passé d'une immigration plus axée sur la résidence ou la citoyenneté vers une immigration plus temporaire de travail économique, donc d'exploitation économique des gens. Donc, on souligne entre autres qu'en 2008, pour la première fois de l'histoire du Canada, le nombre de travailleurs étrangers temporaires a dépassé celui des résidents permanents au Canada. Donc, c'est quand même assez important. Et depuis ce temps-là, ça ne fait qu'augmenter. Donc, les programmes, on parle de restauration, il y a les aides familiales qui étaient assez connues, les travailleurs agricoles, mais c'est dans plein de domaines. C'est rendu dans des domaines très spécialisés aussi. Plus tu es spécialisé, plus tu as chance d'avoir ta résidence après parce qu'on veut te garder pour tes compétences économiques, puis tu fais un plus grand salaire. Mais quand même, cette expansion-là des travailleurs temporaires étrangers et cette supériorité des travailleurs étrangers temporaires versus les réfugiés, les résidents permanents, c'est fait sans débat. Il n'y a pas eu de débat ici au Canada. Ça s'est fait tranquillement par des réformes, par des gouvernements idéologiques comme celui de Harper. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de débat là-dessus. Et on sait très bien que les travailleurs temporaires sont beaucoup plus exploitables. Leurs droits sont plus limités. Ils connaissent moins leurs droits. Ils savent qu'ils n'auront pas accès à la citoyenneté ou à la résidence, donc vont moins se défendre. Donc, une main-d'œuvre beaucoup plus captive et vulnérable. Et dans les faits, le fait de ne pas avoir accès à la résidence en bout de ligne ou de ne pas avoir à la citoyenneté quand tu changes de pays pour travailler, c'est quelque chose qui fondamentalement est discriminatoire et injuste, parce que les gens, quand ils décident de venir dans un pays, c'est toujours dans l'espoir de s'y installer en général, malgré tout ce qu'on peut leur dire. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est un texte de quelques pages donc que je conseille aux gens, parce que ça remet en contexte un peu la situation. Un peu le rôle de chacun et qui fait quoi, c'est quoi les raisons pourquoi les entreprises aiment ces programmes-là, pourquoi le fédéral aime ces programmes-là et pourquoi finalement on se retrouve à créer toutes sortes de formes modernes, on pourrait dire, soit d'esclavage, d'exploitation ou de citoyens de seconde zone. Donc, c'est assez intéressant à lire. Donc, c'est ça, c'est sur le site du Conseil canadien des réfugiés. Et le texte s'intitule « Les travailleurs étrangers temporaires dans un contexte plus large ». Donc, c'est tout à fait récent. Voilà, c'est ce que je voulais vous souligner pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir. La chronique des apatrides fait relâche jusqu'à la fin août, à peu près, début septembre. Donc, Simon, Marie-Ève et moi-même reviendrons à l'automne.
D'accord. On vous retrouvera à la rentrée, alors. Merci beaucoup.
Et si les
beaucoup.
Gens veulent réécouter nos chroniques de la dernière année, c'est apatridesanonymes.info.
Parfait.
Merci, Amélie.
Merci beaucoup.